9 qui boue, explosion des deux bombes artisanales hier dimanche dans la ville de Beni. La première bombe artisanale a explosé dans une église de Beni tôt le matin et la seconde dans la soirée au quartier Mabakanga situé au centre de la ville de Beni. Le bilan de ces attentats fait état de 2 femmes blessées, 1 personne tuée, le porteur de l'engin explosif ainsi que plusieurs dégâts matériels. À la suite de cette situation, le maire de Beni a décrété un couvre-feu sur toute l'étendue de la ville, mais aussi la fermeture de tous les marchés et toutes les écoles depuis ce lundi matin. Selon ce dernier, ces mesures seront évaluées après 48 heures, signalant que ces événements se passent dans une province sous état de siège. Comment expliquer ces explosions alors que les mesures sécuritaires ont été renforcées dans cette partie du pays? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 28 juin 2021. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Paul Mouindo. Il est député national élu du territoire de Beni au Nord Kivu. Il est président du caucus des députés du Grand Nord. Il est également cadre du RCD-KML, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Paul Mouindo, bonsoir.
Bonsoir, Madame Kelly et tous les auditeurs.
Professeur Casimir Ngobi, politologue expert dans les domaines des violences politiques et des groupes armés. Professeur Casimir Ngobi, bonsoir.
Bonsoir, maman, bonsoir. Salutations à tous les auditeurs de Radio Capine.
Et Jean-Jacques Wondo qui va nous rejoindre dans un tout petit moment. Il est analyste politique. Il est diplômé de l'École royale en Belgique, breveté des hautes études de sécurité et des défenses. Il vient de publier un ouvrage intitulé « Sociologie politique militaire africaine ». À Beni, au Nord Kivu, vous nous suivez sous la 92.3 et 92.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radio-okapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à Dialogue entre Congolais, laissez un commentaire ou posez une question en écrivant à dec@radiokapi.net. Appelez au 081 890 64 88. Laissez un commentaire sur la page Facebook intitulée Dialogue entre Congolais-Radio Okapi. Et n'oubliez pas de joindre à tous vos messages un numéro de téléphone par lequel nous pourrons vous appeler en cas de besoin.
Toutes les écoles et tous les marchés sont fermés depuis ce lundi matin à Beni. La décision est du maire de cette ville après l'explosion dimanche des deux bombes artisanales dans cette entité. Selon des sources sécuritaires, cette mesure sera évaluée après 48 heures. Martial Papimoukeba pour les détails.
La fermeture des écoles et des marchés de Beni va durer des jours, du lundi 28 au mardi 29 juin. Les rassemblements des personnes sont également interdits sur toute l'étendue de la ville de Beni. Ces décisions ont été annoncées tôt ce lundi matin à travers les radios locales par les maires de Beni. Tous les habitants sont également priés de se munir de leur carte d'identité partout où ils se trouvent. Selon le commissaire supérieur principal, Mouteba Kachalé, contacté par Radio Okapi, les couvre-feu décrétés dimanche dans la soirée avec effet immédiat reste également en vigueur sur toute l'étendue de la ville. Des mesures prises pour faire face à la situation sécuritaire qui prévaut à Beni après l'explosion dimanche des deux bombes artisanales, l'une dans la paroisse catholique de Boutili et l'autre au quartier Mabakanga. Selon des sources sécuritaires, ces mesures seront évaluées après 48 heures par les services de sécurité, l'armée et la police qui travaillent conjointement avec la MONUSCO pour faire face à cette situation. Les bouclages et les perquisitions dans les différents quartiers de Beni ne sont pas à exclure, signale-t-on. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Merci Papi Moukeba pour ces détails. Paul Mouindo, vous êtes député national élu du territoire de Beni au Nord Kivu. Vous êtes président du caucus des députés du Grand Nord, également cadre du RCD-KML, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Paul Mouindo, en tant que député élu de Beni, vous maîtrisez bien ce coin du pays. Comment vous expliquez ces explosions alors que on a renforcé les mesures sécuritaires dans cette partie du pays?
Oui, moi je voudrais d'abord dans un premier temps remercier Radio Capi qui s'intéresse toujours à la question de Béni. Et là je voudrais aussi présenter ses condoléances aux différentes familles éprouvées suite à toute cette forme de sécurité, de carnage qui se passe dans cette partie du pays. Il faut dire que par là de Béni actuellement et globalement du Nord Kivu et de l'Ituri, et ces deux provinces vivent dans l'état de siège. Et l'état de siège, c'est un peu le fait qu'on assiste à un changement, n'est-ce pas, des autorités civiles et pas les militaires. Et il faut considérer déjà que la ville de Béni, et si quand même le territoire, non vu ces autorités arrivées qui a pour la ville peut-être 2 semaines et pour le territoire il y a peut-être 1 mois. Et il en est de même pour les autorités, par exemple, responsables du commandement de la zone opérationnelle. Ça signifie que actuellement ces autorités sont dans une phase peut-être de connaissance, de reconnaissance, où ils sont dans les opérations, je sais pas moi, d'implantation et ressort. Ce qui fait que les effets réellement de l'État des sièges ne sont pas encore totalement manifestés parce que les autorités sont en train de s'installer. Mais il faut aussi dire que les bombes, les méthodes de bombes artisanales, n'est-ce pas, ne sont pas à leur première manifestation. Ça doit être, je crois, en octobre 2014 ou c'est pas en décembre 2014, précisément en Gadi, il y avait un convoi choses des pilotes militaires qui avaient été attaqués précisément en Gadi.
Mais ça fait quand même sept ans qu'on a plus vécu cela dans le territoire de Béni.
J'étais dans un véhicule qui était derrière les pilotes et heureusement qu'ils m'avaient gardé. Après cela, je vois que les années 2015, on avait assisté également à d'autres explosions. Là, c'était dans la ville, proche du marché Kilokwa. Et un autre moment, c'était une attaque contre le maire de la ville de Béni. Et donc, les explosions qui ont été manifestées hier, il faut dire qu'elles sont dans leur première fois que ça puisse s'observer dans une église. Parce que depuis tout ce temps, c'est la première fois, c'est le premier cas que cela s'observe comme ça à l'église. Mais il faut quand même dire qu'il n'y a pas longtemps, on a assisté à un attentat contre le chef de l'imam, disons contre un imam au niveau de toujours la ville de Béni, il n'y a pas longtemps, donc c'est pratiquement des mêmes méthodes. Et je crois qu'on est en train d'assister à une continuité et à une aggravation des attaques de ces ADF terroristes qui sont en train de vouloir donner une réponse par rapport à l'état de siège. Une façon de vouloir démontrer que l'état de siège ne symbolise rien. Mais je crois qu'ils sont réellement en train de se tromper. Et ici, c'est une opportunité pour moi de rappeler aux autorités militaires que cela démontre la grandeur et même la profondeur et même le sérieux qui doit être totalement placé dans la sécurisation des populations à tous leurs milieux. Ceci démontre même des infiltrations au sein des civils méritent des techniques totalement appropriées pour pouvoir dénicher ces individus qui se filtrent et puis à un moment qui finissent par s'éclater. Et donc le sujet qui a été qui est le porteur de l'arme d'hier ou de cette bombe, c'était un sujet ougandais qui était déjà identifié par nos services depuis longtemps. Et on était, je crois, à sa recherche. Bah, il s'est lui-même explosé. Et donc, cela démontre vraiment que la pression, ou je dirais, il faut vraiment accentuer les mesures de sécurisation de la population et pas seulement de la population, de leurs biens. Et cette approche mérite vraiment, ça doit être une approche multidimensionnelle. Une approche militaire, une approche de renseignement, une approche civile. Et donc, nos services de sécurité doivent vraiment tout faire pour être à la hauteur de toutes ces formes d'attaques qui, bon, pour les uns, symboliseraient une forme de dernier essoufflement. Mais pour moi, je ne pense pas que ce soit le cas. Cela va dans les méthodes des ADF depuis longtemps.
C'est pour dire que malgré l'instauration de l'état de siège dans cette province, cela n'a pas réussi à dissuader ces ADF.
En fait, c'est pour ce genre d'acte que l'état de siège a été instauré. Et nous, l'Assemblée nationale, nous continuons à proroger cet état de siège parce que nous croyons que le résultat de l'état de siège va mettre fin à toutes ses formes, n'est-ce pas, d'attentats, de terrorisme, parce que vous le savez, au-delà de ce qui s'est passé à Beni, à Boga, hier, il y a eu encore de tueries et même de maisons qui ont été incendiées. Et donc, c'est pour cela que l'état de siège a été instauré. Raison pour laquelle nous appelons, n'est-ce pas, à toutes les forces vives, n'est-ce pas, à davantage se mettre ensemble et qu'il y ait plus davantage, n'est-ce pas, trop de sérieux et dans l'accompagnement de cet état de siège et que même les acteurs qui sont envoyés sur le terrain puissent vraiment comprendre que l'ADEF, pour lui, il reste dans l'offensive et il est prêt à se battre, raison pour laquelle nous savons bien que il n'y a pas de forces qui peuvent être au-delà de la force d'une nation. Nous sommes convaincus que les mesures qui sont en train d'être prises vont être à la hauteur de cette menace qui, n'est-ce pas, voudrait davantage terroriser, intimider les gens. Mais il faut réellement que les autorités militaires puissent prendre l'attaque contre leurs ennemis dans toute sa dimension.
Professeur Casimir Ngoubi, politologue expert dans les domaines des violences politiques des groupes armés. Professeur, après cette série d'attentats hier dans la ville de Beni, est-ce que les forces armées de la RDC devraient revoir leur stratégie?
L'affirmative, maman, mais avant de continuer, permettez quand même qu'ils me disent merci. Et félicitations à Radio Capi qui constitue à mon niveau, n'est-ce pas, un fonds médiatique qui accompagne le gouvernement de la République depuis, pas seulement depuis cette période d'état de siège, mais depuis toujours. Merci beaucoup pour Radio Capi. Je voudrais peut-être, avant de continuer, corriger ce que l'honorable venait de dire. Je ne crois pas que l'on soit encore à une phase d'implantation des FARDC. La guerre a pris des proportions considérables. Les choses ont pris de l'ampleur, de l'ascenseur. Qu'est-ce que je peux dire dans un premier temps? Les actes terroristes confirment bel et bien que la RDC est exposée aux menaces. L'explosion de deux bombes artisanales à Beni vise à confirmer au niveau de l'opinion l'existence réelle de l'ennemi d'Adamas et l'expression de sa plus grande capacité de nuisance. Le terrorisme est véritablement montre aujourd'hui qu'il a comme cible faire peur à la population, de montrer la faiblesse de la FARDC et les risques de composer avec les FARDC au niveau de la population. Et donc on est en train d'arracher à ce niveau-là cette arme la plus extraordinaire, la plus forte, c'est-à-dire la population, de mains des FARDC à travers ces bombes et qui explosent ici et là. Les terroristes de l'ADEF savent que la population constitue la plus grande arme. Ces élèves qui sont à la maison et ces études qui ne sont plus organisées en ce moment créent des frustrations, une certaine frustration au niveau des enfants, au niveau de la population tout entière. Et cette explosion de bombes est un message clair, madame, et net, qui signifie que le FARDC, pour l'instant, doit, comme vous venez de le dire, revoir leur stratégie pour faire face à cette puissance. Et comme le disait d'ailleurs Raymond Aron, qui considérait que le terrorisme exerçait une volonté spectaculaire aux effets psychologiques et la manipulation des émotions au centre de la stratégie afin d'atteindre l'opinion publique par une onde de choc affectivo-émotionnel, comme le disait, amplifié par les médias. Parce qu'on ne suit pas seulement ces informations en RDC, mais sur le plan international. Et même ceux qui opèrent aux côtés des ADF, ils savent qu'ils ont marqué le point dans la guerre qui est engagée contre les FARDC. Et donc le message à tel ennemi, c'est-à-dire les FARDC, c'est-à-dire les gouvernements, qui peut paniquer ou qui peut lâcher prise s'il n'est pas fort. Et ça c'est très important. L'ennemi n'est pas peut-être celui auquel on pensait. C'est la raison pour laquelle, pour l'instant, le gouvernement de la République doit procéder à une évaluation rapide et remobiliser les troupes. Moi, je crois que pour l'instant, le président Tshisekedi, pour l'instant, et j'ouvre la parenthèse, qu'il faut féliciter, qu'il faut soutenir par rapport à ce sursaut patriotique qu'il a poussé avec le gouvernement de la République à prendre ses décisions afin d'instaurer l'état des 16 Nord Kivu et à Ituri. Ce président de la République doit donc être soutenu, mais fort est de constater que peut-être les moyens disponibles pour l'instant ne sont pas capables de pouvoir aider les FAPC à traquer l'ennemi ou les ADF au niveau de la province de Béni et de l'Ituri.
Alors, professeur,
voilà, ça, c'est un étape à lecture.
Professeur, vous l'avez dit tout à l'heure, ces attentats signifient que l'ennemi est dans la masse. Il y a cet auditeur, patient Kitsa de Goma Nord Kivu, qui vous rejoint un peu. Il dit, cela veut dire tout simplement que l'ennemi vit dans la population et avec la population. C'est pourquoi une identification de la population s'avère urgente pour faire face aux problèmes d'insécurité dans cette région.
Affirmatrice, l'auditeur a raison parce que trois objectifs majeurs sont poursuivis par les terroristes. D'abord, attirer l'attention de façon spectaculaire et violente sur un rapport de force perçu de façon manichéenne. Donc, il faut compter les victimes innocentes. Il n'a pas besoin de bilan, madame. C'est une personne qui est morte, c'est deux, c'est trois blessés, c'est pas leur affaire. Le problème, c'est la consommation au niveau de l'opinion des actes qui sont en train de déposer. Mais en même temps, une exigence d'être reconnus, identifiés comme tels, qui sont là et qui gardent, qui maîtrisent, qui contrôlent l'espace. Et enfin, mettre en image symbolique de la force terroriste. Alors à ce moment-là, on combine la violence physique à la violence symbolique pour affaiblir suffisamment l'ennemi. Et comme je disais, si l'ennemi n'est pas fort, il la surprise. Et à ce moment-là, il prend de l'ampleur et il contrôle l'espace.
À la suite de ces événements, le maire de Béni a décrété un couvre-feu sur toute l'étendue de la ville, mais aussi la fermeture de tous les marchés, de toutes les écoles depuis ce lundi matin. Selon ce dernier, ces mesures seront évaluées après 48 heures. Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures, professeur? Mesures efficaces pour essayer de dénicher l'ennemi qui est caché au sein de la population.
Ouais, regardez encore une autre précision, une autre expression de patriotisme au niveau de ces patriotes, ces compatriotes-là. Mais malheureusement, la décision seule ne suffit pas. Faut-il encore qu'ils soient soutenus matériellement, financièrement, les militaires et les policiers qui vont circuler la nuit à Béni? Est-ce qu'ils ont l'air cassés? Les renseignements, qui va pratiquement soutenir les renseignements la nuit pendant qu'ils vont circuler? Est-ce qu'ils ne vont pas eux aussi s'exposer? Parce que s'ils ne sont pas forts financièrement, matériellement, cette décision risque d'être évaluée négativement, et surtout que 48 heures, ce n'est pas beaucoup de choses. Je crois que pour l'instant, avec ce sursaut de patriotisme manifesté, exprimé à travers cette décision, je pense que le gouvernement de la République pourrait le plus rapidement possible le soutenir et voir dans quelle mesure il peut bien prendre en charge les militaires et les policiers qui font ce couvre-feu qui circule la nuit et particulièrement les services. J'ai toujours répété, madame, chaque fois que je parle, que nous avons des services de sécurité, particulièrement l'ANR a besoin de soutenir. S'il y a des moyens nécessaires à mettre à disposition, pas seulement l'ANR Béni, mais au niveau national, partout, au niveau de tout cet espace, pour accompagner, pas seulement les policiers et les militaires qui vont faire les couvre-feu, qui vont exécuter la décision du maire de la ville, mais aussi les autres services de renseignement pour soutenir effectivement cette décision des patrouilles ou des couvre-feu pendant 48 heures. Et bien alors, les enfants, qu'est-ce qu'ils vont attendre? Ceux qui doivent aller à l'école, et les mamans qui doivent aller au champ, et les autres qui vont continuer, et les commerçants. Vous comprenez donc que la cible de l'ennemi a été véritablement touchée, et la peur a finalement pris la population de Béni, et je crains que malgré ce couvre-feu-là, on ne trouve pas une solution qui soit véritablement durable par rapport à ces attaques, ces explosions artisanales.
Merci, professeur. La réalisation me signale que Jean-Jacques Hondo nous a rejoint dans ce débat. Il est analyste politique et diplômé de l'École royale en Belgique, breveté des hautes études de sécurité et de défense. Il vient de publier un ouvrage intitulé « Sociologie politique militaire africaine ». Monsieur Hondo, bonsoir.
Bonsoir Madame Kouté, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Capi.
Alors comment vous expliquez ces explosions alors qu'on a renforcé les mesures sécuritaires dans cette partie du pays?
On peut donner plusieurs explications au recours à ce type d'attaque, hein, d'installer des bombes artisanales. Mais si on doit le situer dans le cas de l'état de siège, le premier constat qu'on peut faire est que on se trouve face à une situation qui a été implémentée sans avoir été bien planifiée en amont. Donc ce n'est pas la première fois qu'on le dit. À l'instar des opérations qui ont été lancées, les opérations de grande envergure qui ont été lancées il y a pratiquement 2 ans, en octobre 2019, au Nord Kivu, et lancées en pompe et dont les résultats n'ont jamais été évalués à ce jour. Et du coup, du jour au lendemain, on décrète l'état de siège sans essayer de comprendre le cause de la déliquescence même de la dégradation de la situation sécuritaire dans cette partie du pays et de la déliquescence même de nos services de défense et des services de sécurité, on s'est compris le service de renseignement. Donc ici, on peut expliquer cette situation par le fait que l'agresseur veut montrer qu'il a d'autres éventails de stratégies ou de tactiques et auquel il peut faire recours pour montrer sa capacité de nuisance. Et cela porte à croire que les mesures prises dans le cadre de l'état de siège sont loin d'être efficaces et montrent un certain dysfonctionnement et mal préparation dans leur conception, dans leur implémentation et même dans l'identification de la menace des agresseurs, parce que si les agresseurs se permettent d'aller jusqu'à attaquer les églises qui sont quand même le symbole fort dans le cadre du droit international humanitaire, ça montre aussi que l'agresseur est capable et montre la faiblesse de nos forces de sécurité, de nos forces de défense. Et il y a aussi une lecture qu'on peut faire parce que moi...
Monsieur Ondo, excusez-moi, il y a une certaine opinion qui parle plutôt de l'essoufflement de l'ennemi, c'est que le pousse à agir ainsi.
Je ne le pense pas que ça soit une question d'essoufflement, ça c'est plus une communication qui est donnée par les autorités militaires pour tenter de calmer la population. Comment pourrait-on parler de l'essoufflement? Parce qu'il y a quelques semaines auparavant, au mois de mai, à mi-mai, il y a eu une attaque, l'assassinat d'un imam de Mamit Mavizi au sortir de l'église. Et quand vous voyez le bilan qui est fait des attaques de plusieurs groupes armés, que ce soit plus au nord au niveau de l'Ituri et que ce soit au nord Kivu, on a l'impression qu'on est dans un continuum. Donc depuis que l'état de siège a été lancé, on a évalué une situation qui montre que la violence a diminué. Et comme disait le professeur, ici on voit plutôt que la violence est en train de prendre de l'ampleur et même ces gens se promènent pour montrer qu'ils sont capables d'utiliser d'autres techniques sans être inquiétés. Donc ça montre la faiblesse des services de sécurité, comme je l'ai dit, la faiblesse des services de renseignement, et ça pose la question même sur la planification stratégique et opérationnelle de mesures de l'état de siège, madame.
Les auditeurs sont très nombreux à nous appeler sur notre standard. On va prendre pour vous Paul Mouindo, cet auditeur qui nous appelle depuis la ville de Goma, au nord Kivu.
Monsieur John Lupala, depuis la ville de Goma. On ne gagne pas une guerre asymétrique par les moyens conventionnels. Il faut associer la population pour dénicher l'ennemi intérieur. On peut occuper tout l'espace et croire tout contrôler avec des armes lourdes et sophistiquées, mais l'ennemi intérieur trouvera toujours avec les moyens les plus faibles, les côtés les plus faibles pour frapper. L'objectif est de créer une psychose alimentant ainsi l'insécurité au sein de la population. Dans ce type de guerre, la population demeure la première source d'information.
Paul Mouindo, réaction.
Ah oui, effectivement, comme je le disais tantôt, ce qui a créé des peurs et ce qui s'est passé hier dans la ville de Beni d'une manière répétitive, ça veut dire le matin à 6h, une attaque au niveau de Boutili dans la paroisse catholique. Il faut dire que un jour avant ou 2 jours avant, dans cette commune, on avait fait des perquisitions dans cette commune et puis on avait trouvé beaucoup d'effets militaires. Il y a même trois militaires qui avaient également été arrêtés. Et à la suite aussi, avec le lendemain, qu'il y a eu des attaques au niveau de la commune de Boutili. Et la même attaque avait été observée également au niveau du rond-point Malumalu là-bas, où on a vu Malumalu, et près des postes de troc. Et toutes ces attaques, comme je l'ai dit à un certain moment, nous sommes, en fait, l'état de siège a été décrété exactement pour mettre fin à ce genre de choses.
Parce que, dans la précipitation, sans planification, dans la précipitation et sans planification en amont, comme l'a dit Jean-Jacques Wondo tout à l'heure dans son analyse.
Bon, en fait, la planification, je me dis quand même qu'on ne peut pas prendre une mesure comme ça sans une planification. Et nous avons constaté, par exemple, qu'il y a eu effectivement des faiblesses dans, jusque-là au niveau de l'accréditation, comme je l'ai dit, des acteurs sur le terrain. Et le professeur a parlé des moyens, effectivement, qui étaient facteurs importants. On a constaté le retard dans l'accréditation des autorités sur le terrain, comme je l'ai dit tantôt. Il y a deux semaines que certaines autorités, dont le maire de la ville, a été installé. D'ailleurs, à Boutembo, ça n'a même pas une semaine, et je crois que c'était le samedi passé, qu'il y a eu remise et reprise et tout ça. Mais je me dis, attaquer la DEF signifie que la DEF, qu'est-ce qu'il fait? La DEF égorge les populations, la DEF incendie les véhicules, la DEF fait des attaques terroristes. Depuis longtemps, c'est connu. Et donc, lorsqu'on planifie l'attaque, tous ces effets-là, toutes les formes d'attaque de la DEF sont supposées être incluses dans la riposte, n'est-ce pas, ou dans l'offensive qui doit être organisée par notre armée et les services, n'est-ce pas, de renseignement. Et c'est là même que je rejoins l'auditeur de Goma, c'est ce que j'ai dit. L'approche ne doit pas simplement être militaire. L'approche doit être aussi, n'est-ce pas, il faut arriver à intégrer aussi l'approche civile, je ne sais pas comment ça va se passer, dans l'attaque contre ces gens qui s'infiltrent et qui sont aussi au sein des populations. Et donc, ça signifie et aussi une bonne planification. Alors, quand il faut dire qu'il faut réactualiser, quand il faut dire qu'il faut refaire des nouvelles stratégies, non. Est-ce que les stratégies qui ont été faites jusqu'ici ont montré leurs résultats? Voilà pourquoi j'ai dit déjà d'emblée au professeur qu'il faut d'abord que ce qui a été planifié puisse montrer son résultat. Et là, nous continuons à attendre, n'est-ce pas, à ce que ces résultats soient réellement manifestes. La fois passée, nous étions à Béni. On avait lancé les opérations de grande envergure. Nous avons même été dernièrement, moi j'étais encore à Béni, il y a une semaine, j'ai rêvé là. Le seul bénéfice, n'est-ce pas, que nous pouvons nous dire aujourd'hui des opérations de grande envergure, c'était le fait que nous avons observé une accalmie de près d'une année et 7 mois dans la ville de Béni, sans aucune attaque. J'ai dit bien dans la ville de Béni. Les récentes attaques que nous avons observées, c'est notamment les tueries de l'imam au niveau de la ville de Béni et même au niveau de ma vie, et les attaques d'hier.
Professeur Casimir, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kananga.
Maître Alidor Mampouya, avocat au barreau du Kasaï central et résident à Kananga. Nous constatons que l'ennemi a changé le mode opératoire et il faut que les services de sécurité prennent au très sérieux la guérilla de l'Est du pays. Ce qui vient de se passer le dimanche à Béni prouve la suffisance que les terroristes sont bel et bien impliqués dans la guerre de l'Est, comme les rapports des Nations Unies venaient de le confirmer il y a peu. Du côté des forces loyalistes, on doit aussi changer de stratégie de guerre et prendre beaucoup plus en compte les nouveaux modes opératoires de l'ennemi. Car ce dernier, ayant compris qu'avec l'état de siège et l'assaut des forces loyalistes, l'ancien mode opératoire ne peut plus passer, il a dû changer. Les autorités politico-militaires doivent adapter aussi de leur côté les moyens et stratégies de guerre par rapport à la nouvelle donne de l'insécurité à l'Est. Le nouveau mode opératoire de l'ennemi est plus dangereux et plus dévastateur par rapport aux victimes.
Cet auditeur vous rejoint un tout petit peu, professeur, dans votre analyse de tout à l'heure.
Oui, madame. Non seulement que l'ennemi a changé, mais je confirme qu'il a consolidé son mode opératoire. Et là, je donne raison aux dernières conclusions que les États-Unis venaient de donner en assimilant les ADS à Daesh, en Irak. Donc vous comprenez que le gouvernement de la République se passe à un mouvement véritablement terroriste. Ils ont donc consolidé leur mode opératoire et si nous ne répondons pas à un certain nombre de questions pour savoir comment remobiliser les acteurs dans le cadre de cette gouvernance sécuritaire, nous ne saurons pas avancer. D'abord, qu'est-ce qui se passe aux frontières entre la RDC et le Rwanda? Qu'est-ce qui se passe aux frontières entre la RDC et l'Ouganda? Est-ce que le service de renseignement du gouvernement de la République maîtrise exactement ce qui se passe au niveau des frontières par rapport aux infiltrations? Qui ravitaille l'ennemi pour qu'il soit plus fort il y a plusieurs semaines depuis que l'état de siège a commencé? Est-ce que l'on connaît au niveau local de la RDC, là où ils contrôlent l'espace, au niveau international, parmi les États, alors les États voisins et les organisations internationales, les multinationales qui soutiennent pour l'instant les terroristes, les ADF? Moi, je crois que les questions ne sont pas limitatives. Hein? Les questions sont encore nombreuses. C'est de cette manière que nous devons faire. Est-ce que la chaîne de commandement jusqu'à a déjà subi la pure rejet? Parce que le traître continue à trahir. Est-ce qu'au niveau de l'information, il n'y a pas de traître qui donne les informations à l'ennemi? Une autre question que je voudrais me poser aujourd'hui, à laquelle j'ai toujours pensé, les politiciens, pour l'instant, parlent-ils le même langage de l'opposition comme le gouvernement de la République? Les États-Unis d'Amérique, les grandes puissances, ils ont quand même des questions communes, notamment des questions sécuritaires. Mais pourquoi les acteurs politiques sont divisés à ce niveau-là? Et donc on croit que si aujourd'hui on arrivait à attaquer les groupes rebelles, les ADF feraient le succès à Tshisekedi. Non, Tshisekedi, peut-être s'il le fait dans un contexte patriotique, parce que c'est un citoyen congolais, comme quelqu'un d'autre le ferait. Mais pourquoi les politiciens ne parlent pas le même langage? On sent là, et surtout quand on donne la parole à l'opposant ou à l'opposition, vous comprenez tout de suite là, c'est des condamnations. Est-ce qu'ils se sont déjà mis quelque part? Et les politiciens frustrés, et ceux qui sont au pouvoir, madame, je voudrais les inviter, mes frères, s'il vous plaît, d'être ensemble et de regarder la même direction. Je sais qu'il y en a qui pensent que tu fais du jour pour la campagne avec l'état de siège, qu'il faut bloquer, barrer la route pour que l'état de siège ne donne pas de fruits escomptés par rapport au gouvernement de la République. Voilà ce que je voudrais dire dans un premier temps. Donc il y a consolidation du mode opératoire par l'ennemi, et l'ennemi connaît déjà les faiblesses d'un FARC-TC du gouvernement. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut remobiliser les acteurs, purger la chaîne des commandements pour que les traîtres soient mis hors de sa dénuit.
Jean-Jacques Mondo, on lance une réaction pour vous qui nous vient de Mbandaka.
Junior Bompong, à partir de la ville de Mbandaka, province de l'Équateur, exprime un acte de mépris et sabotage à l'état de siège et remet en cause celui-ci. Par ailleurs, il faut comprendre que ces événements sont justifiés par la défaillance de nos services de sécurité qu'il faut à tout prix rendre dynamique. Faute de quoi, nous aurons que des larmes pour pleurer nos frères et sœurs victimes de ces actes horribles qui s'apparentent aux attaques terroristes.
Je vais ajouter cette autre réaction pour vous, Jean-Jacques Rondeau, de Fikiritumba, qui pense que l'état de siège n'était pas la solution appropriée par rapport à ce qui se passe dans la province du Nord Kivu.
Madame, je vais d'abord réagir par rapport à la première intervention. Donc la personne qui parle du mépris du sabotage de l'état de siège, moi je disais tout à l'heure que c'est plutôt un défi. Qu'ils ont lancé et qui continuent de lancer à l'égard des autorités politiques et militaires. Et surtout, il ne faut pas oublier que ces événements, ces attaques interviennent pendant que le président de la République et une forte délégation politique et militaire à tous les échelons se retrouvent dans la province pour notamment suivre le déroulement des activités. Donc ça montre que, comme je l'ai dit, l'état de siège a été mal planifié. Ici, je reviendrai quand même en tant qu'expert militaire pour apporter certains éclairages, notamment au député Mohindo, pour faire qu'on, quand on parle de la mauvaise planification, dans le jargon militaire, quand on parle de plan de manœuvre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas décréter une action militaire ou une décision du type état de siège, si constitutionnellement ou dans le droit de conflits armés, renvoie directement à la notion de conflit et de guerre. L'état de siège n'a rien à voir avec l'état d'urgence. Donc il faut d'abord au départ faire la part des choses. Ce sont des notions que je vois au quotidien, que beaucoup d'acteurs, même politiques à très haut niveau, n'arrivent pas à saisir ces notions. Et quand on parle de la planification en termes militaires, la planification consiste d'abord à faire l'état de la situation sécuritaire du pays, à identifier l'ennemi, son mode opératoire, sa capacité, ça c'est deux, et à déterminer quel type de mission on devrait mener pour pouvoir mener des opérations, ça c'est trois. Et une fois qu'on détermine les missions, donc on identifie, on détermine les missions, maintenant on passe à l'étape de l'exécution. Quels sont les moyens qu'il faut mettre en termes humains, en termes financiers, en termes logistiques, en termes même des forces armées pour pouvoir accompagner la mise en place de cet état de siège. Ça c'est quatre, et ce n'est que par après qu'on peut maintenant commencer à structurer les unités sur le terrain, les mettre dans qu'on appelle préavis zéro, de sorte que le jour où on lance l'état de siège, tout le monde est sur le terrain, la planification est là, les informations sont envoyées aux unités de terrain et ils mettent en place les opérations qui surprennent même l'ennemi. Or, tout cela n'a pas été fait et d'ailleurs, de l'aveu du député, on se rend compte que jusqu'à présent, on continue même à déployer certaines autorités policières au niveau des villes ou des cités. Ça montre que les choses se font à tâtons et sans une planification stratégique globale, ce qui fait que c'est difficile que cela puisse prendre, on sent qu'il y a un problème. Le deuxième problème qu'il a relevé, c'est le problème des réformes des unités qui sont sur le terrain. Quand on ne le dira pas suffisamment, c'est parce que chaque fois, on ne cesse de dire qu'il y a un problème de dysfonctionnement des unités qui sont sur le terrain, du commandement qui est sur le terrain, un problème de dysfonctionnement au niveau de transmission des informations, des renseignements entre les unités, mais aussi entre la DENIAP et l'ANER. Il y a aussi un déficit des unités qui sont sur le terrain, notamment en parlant de la police, parce que la menace qui sévit dans cette partie, parfois, ne décide pas qu'il y ait une intervention militaire, plutôt une intervention du type policier. Et on me dira qu'il n'y a pas moins de 100 policiers qui sont actifs dans la zone de Beni. Ça, c'est une aberration. Et pour embrayer directement à la deuxième partie, je pense que le problème reste vraiment un problème d'une analyse globale. Mais dire que l'état de siège n'est pas une solution, non. L'état de siège est une des pistes et solutions qu'on peut prendre, mais cela nécessite qu'elle soit bien réfléchie, bien planifiée, bien conceptualisée, et sa mise en place suive un certain nombre de critères qui permettent à ce que cela puisse réussir. Donc le problème n'est pas à dire que l'état de siège n'est pas une solution, mais la manière dont elle est implémentée montre beaucoup de lacunes et qu'il faudrait encore beaucoup de temps pour que cela puisse aboutir au résultat. Mais ma crainte, c'est qu'on risque d'arriver à banaliser cette notion d'état de siège qui est quand même une situation assez exceptionnelle et qui pourrait aussi avoir un impact politique par rapport au processus électoral, par exemple, qui pourrait arriver d'ici 2023. Quand vous voyez qu'on s'attaque, par exemple, à l'Église catholique, il faut aussi avoir le réflexe de faire des analyses globales historiques. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas plus, il y a quelques semaines, l'Église catholique a fait une analyse assez intéressante de la situation en disant que ne tuez pas nos frères. Et vous constaterez qu'à l'est du pays, chaque fois que l'Église catholique sort du silence, elle devient aussi la cible des assaillants. On a connu des évêques qui ont été tués, que ce soit au sud Kivu, au nord Kivu, et chaque fois que l'église sortait du silence, elle était la cible. Et ça peut même être une indication du type de personnes qui sont à la base de cette menace. On a tendance à banaliser ou à minimiser les choses en se disant que la menace reste purement une menace terroriste islamiste. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, d'autant plus que le dernier rapport des Nations Unies montre qu'il n'y a pas de preuves étayées entre l'ADEF et le terrorisme, même si il y a quelques indices, mais la menace qui se passe, par exemple, à Nitour, n'a rien à voir avec ce qui se passe là-bas. Donc, essayer de réduire cette menace à une question purement islamiste, c'est aussi une erreur qui pourrait aussi faire de sorte que nous soyons dans cette faiblesse structurelle, même opérationnelle, de comprendre, d'identifier qui est l'ennemi. Donc, ce sont des éléments qui sont importants à tenir compte lorsqu'on met en place l'état de siège. Mais bon, on reste vraiment très inquiet du fait que la solution risque de ne pas porter le fruit au même titre que les opérations qui ont été menées en Itour et en Itour, Isarouba et Itouri en 2019 ou les grandes opérations au Nord Kivu
en 2015.
Puisque vous parlez de solutions, ça sera votre conclusion, Jean-Jacques Ondo. Comment arriver finalement à neutraliser ces EDF, parce qu'on a pensé comme étant des autorités militaires, policières à la tête des provinces. Cela dissuaderait ces miliciens, ces rebelles, brièvement.
Brièvement, je pense qu'on pourrait rentrer dans les détails. Il y a des solutions d'abord d'ordre politique. Il doit avoir une véritable volonté politique de la part des autorités de vouloir non seulement arriver à neutraliser les présumés ADF, mais aussi à sécuriser toute la partie de l'Est qui demande des réformes en termes de changement du commandement, en termes de changement des unités qui sont sur le terrain, en termes de déplacement de certaines troupes, de certaines personnes dont on sait qu'elles sont en connivence, parce qu'on ne peut pas aller attaquer une église si on n'a pas de complicité. On n'a pas de complicité dans la population, l'ennemi se fond dans la population, mais l'ennemi peut se retrouver aussi dans les forces d'armée. Mais on parle aussi de l'accompagnement de l'armée en termes de moyens adéquats, que ce soit des moyens financiers, moyens logistiques, mais cela prend qu'on puisse voter par exemple une loi de financement qu'on appelle loi de programmation militaire pluriannuelle qui permet au Sénat et au Parlement et à l'Assemblée nationale de prendre le temps d'analyser la situation sécuritaire et d'y trouver des moyens financiers adéquats pour permettre de changer les choses. Or, on voit que sur le plan politique ou légaux, ces initiatives ne sont pas prises. Et le volet même réforme de l'armée a été interrompu depuis 2013. Aujourd'hui, on essaie un peu d'avancer à tâtons. Moi, je pense qu'il faut réfléchir vraiment globalement la réforme des services de sécurité, voir comment on peut être efficace dans ces cas, mais aussi des questions de solutions d'ordre diplomatique dans la région, le mécanisme de contrôle qui est là, la mise en place la relance de la mise en application de l'accord cadre de la liste d'Addis Abeba, qui reste un document quand même assez intéressant qui peut nous donner beaucoup d'éléments, parce que nous savons que, je le dis toujours, la menace d'insécurité a des origines congolaises, mais elle a aussi des causes exogènes.
Paul Mouindo, conclusion.
Oui, en fait, moi d'abord je voudrais, dans un premier temps, il faut éviter de penser qu'on est devant les faits nouveaux. Le 5 juin 2018, il y avait une attaque similaire à la mairie de Béni. Le 10 décembre 2019, il y avait une attaque par une bombe artisanale au petit marché Les Trocs. Le 26 décembre 2019, c'était dans un petit bar au niveau de Boutilly. Ça signifie que l'ennemi est dans la même méthode. Raison pour laquelle nous encourageons ici le service, notre armée et même le gouvernement congolais à prendre totalement au sérieux toutes les questions de réforme et un accompagnement adéquat à toutes ces autorités militaires qui ont été envoyées sur terrain. Ça, c'est de un. De deux, il faut que l'approche puisse permettre à ce que les complices à tous les niveaux soient totalement dénichés. Et pour cela, nous encourageons les autorités militaires à travailler davantage avec la population au niveau local. Mais il faut également que les moyens soient totalement mis à la disposition, particulièrement à ces deux provinces. Il faut que la chaîne, n'est-ce pas, des recettes, la chaîne de transfert de moyens, ne soit pas une chaîne ordinaire, parce qu'on est dans une situation particulière. Il faut en fait que la diplomatie qui est en train d'être menée par le président actuellement, que cette diplomatie soit totalement sincère vis-à-vis de nos deux pays.
Professeur Casimir, en 30 secondes, votre conclusion.
Merci beaucoup. Je pense qu'il faut lutter contre l'ennemi en évaluant ses stratégies. Hein. Cette fois-ci, on a compris que lorsque les FRDC composent avec la population, cela serait mal à l'ennemi. Mais en même temps, lorsque les leaders d'opinion sortent de leurs réserves, cela serait mal aussi à l'ennemi. Que les gouvernements républicains prennent l'Église catholique, les églises, la société civile aussi en charge, parce qu'ils ont compris, que le gouvernement a compris que la cible pour l'instant, c'est la population, c'est pour l'instant les leaders d'opinion qui ont besoin et aussi d'être pris en charge pour qu'ils se mobilisent pour mettre fin à cette histoire qui n'a que trop duré.
Merci professeur. Dialogue en congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté et Donna Madimba qui m'ont aidé à préparer cette émission sous la supervision de Martin Seboujangwe. Merci à Bob Landou qui était à la mise en onde. Présentation et coordination, Kéline Couté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.